Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
La science CQFD, Natacha Trioux.
Le 5 mars dernier, la communauté des géologues a tranché « La Terre n'est pas entrée dans cette nouvelle époque géologique, l'Anthropocène ». Ce concept est au cœur d'une controverse scientifique. A-t-il un sens d'un point de vue géologique ? L'Anthropocène désigne cette nouvelle période façonnée par l'humain qui, de simple habitant, serait devenu une force géologique capable de modifier l'environnement au même titre que les forces naturelles qui ont façonné la Terre sur des milliards d'années. Un concept qui ne fait pas consensus, d'autant qu'il est apparu sous la plume d'un chimiste, qui n'est ni géologue, ni stratigraphe de formation. Si son assise scientifique a toujours été bancale, comment la géologie s'approprie-t-elle le sujet ? Science de la Terre, être ou ne pas être, Anthropocène. Jean-Baptiste Frézos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sciences, des techniques et de l'environnement au CNRS. Vincent Huot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en paléontologie et stratigraphie à l'Université de Lorraine. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter, sur X pour notre live tweet qui commence tout de suite et qui est sur notre fil @sciencesCQFD. Alors est-il scientifiquement rigoureux de parler d'anthropocène pour définir la période géologique actuelle ? Quelles sont les raisons de l'essor de ce concept ? L'humain pourrait-il être une force géologique ? Et si oui, comment le mettre en évidence ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, comment définir des zones biostratigraphiques ? La question est posée en 1961, c'est notre archive du jour.
L'un des résultats les plus remarquables acquis au cours des dernières années fut l'établissement de zones biostratigraphiques dans le Cambrien inférieur, à l'aide des trilobites. Ces zones sont d'environ 2,5 millions d'années, ce qui, pour cette époque, qui est la première de l'ère primaire et qui remonte à environ 500 millions d'années, représente un découpage temporel d'une précision extraordinaire. Le géologue français Huppé s'est illustré en établissant ces zones dans le Cambrien inférieur du Maroc. Il a montré que les espèces les plus utiles pour l'établissement d'une zonation ne sont pas forcément les plus abondantes et ne sont pas non plus à rechercher spécialement parmi les plus faciles à reconnaître. Son travail montre également que si l'on peut définir des zones biostratigraphiques, c'est parce que l'équilibre faunistique des mers à l'époque cambrienne s'est modifié continuellement. Dans ces modifications d'équilibre, rapides à l'échelle des temps géologiques, l'évolution propre à chaque lignée ne paraît pas jouer un rôle plus important que les fluctuations du milieu physique. En fait, la plupart des espèces apparaissent sous forme de fossiles sans qu'on puisse déterminer exactement d'où elles viennent. Et elles disparaissent généralement de la série sédimentaire considérée, sans avoir visiblement évolué. On pourrait donc parler d'une évolution d'ensemble de la faune, indépendante de celle des espèces. Le fait que les mêmes zones biostratigraphiques se retrouvent dans le même ordre, à de très grandes distances, par exemple entre l'Europe et l'Australie, ne peut que résulter d'une simultanéité des modifications de l'équilibre faunistique sur de très vastes étendues. Ceci revient à dire qu'à l'échelle des temps géologiques, les déplacements d'espèces animales ou végétales sont pratiquement instantanés.
Voilà un extrait de l'heure de culture française en 1961. Et la voix de Louis Teller, de la Faculté des sciences de Montpellier. Vincent Huot, on entendait là dans cette archive parler de découpage temporel très précis.
Oui, c'est une belle archive, hein. Merci de l'avoir diffusée, parce que bon, c'est effectivement un petit peu daté, 61, il y a des choses qui ont évolué depuis, mais le message de base, il est toujours valable, c'est-à-dire que la stratigraphie, comme son nom l'indique, c'est la description des couches, et la description des couches pour quoi faire, non pas simplement pour les observer, pour les admirer, mais pour tirer une information qui est une information d'ordre chronologique. Donc avec les strates, la succession des strates, on va décrire l'histoire de la Terre, et donc on le fait notamment depuis longtemps, depuis le 19e siècle au moins, à partir des fossiles. Donc cette archive l'illustre parfaitement. On a des groupes de fossiles qui permettent, par leur évolution rapide, de reconnaître des ensembles de strates tout à fait particuliers, qui se distinguent des précédents et des suivants, et qui nous permettent donc de poser des jalons dans l'histoire de la Terre. C'est ça le but de la stratigraphie. Et là, la biostratigraphie, ça n'est qu'une façon de faire de la stratigraphie. Il y en a d'autres, on peut décrire les roches, on appellera ça de la lithostratigraphie. Et puis le résultat, ça sera l'établissement d'une chronologie, on appellera ça la chronostratigraphie.
Voilà, la stratigraphie, c'est l'outil de base pour le géologue. Jean-Baptiste Frézos, on entendait dans cette archive l'importance d'avoir des délimitations bien définies.
Ce que je trouve intéressant dans cette archive, c'est que c'était de manière implicite, on avait un petit peu l'énumération des critères pour un bon marqueur stratigraphique. Déjà, il faut que ça soit un marqueur stratigraphique global, que ce soit un événement en tout cas, qui est un événement qui se voit dans plein d'endroits très différents de la planète et surtout à de grandes distances, et que c'est lieu au même moment, ou plus ou moins au même moment à l'échelle des temps géologiques. Et ça, ça a été un des enjeux clés du débat autour de la question d'Anthropocène sur lequel on pourra revenir. L'autre point important, bah oui, c'est que c'est dans de la roche, quoi. C'est des fossiles, c'est des choses qui durent. Donc le fait que le marqueur soit permanent, ce qui était un autre défi pour la question de l'Anthropocène. Donc on voit bien aussi les échelles temporelles qui sont gigantesques. Là, c'était moins 500 millions à moins 2 ou 3 millions, je ne sais plus. Enfin bon, des centaines de millions d'années. Et le problème de l'Anthropocène, c'est qu'effectivement, c'était un événement plus récent, puisqu'il fallait remonter aux années 1950 pour définir une nouvelle époque. Donc on voit bien que sur ces trois aspects, le fait d'accepter l'Anthropocène en géologie, il y avait un défi, en fait. Alors, on peut estimer que, enfin, on y reviendra après, hein. Est-ce que ceux qui promouvaient, les géologues qui ont promu la question de l'Anthropocène relevaient tous ces défis-là qui sont, en fait, des normes? C'est-à-dire, on a choisi que pour définir une époque stratigraphique, c'est comme ça que ça se ferait. Mais il y a un aspect un peu arbitraire, ou en tout cas, une sorte de coutume qui s'est créée parmi les géologues pour dire, voilà, ça sera ça, les marqueurs stratigraphiques. Donc, en fait, avec cette archive, on est immédiatement au cœur des enjeux, en fait, de la définition de l'Anthropocène.
Une archive qui a été trouvée par notre réalisateur chéri, Olivier Bétard, qui fait ce travail tous les jours. Les critères pour définir en géologie, l'Anthropocène, évidemment, on y reviendra. Mais d'abord, un petit point étymologie. Parce que dans le langage courant, on entend beaucoup, enfin, les termes ère, époque, période, c'est des termes qu'on utilise tous les jours. Mais en stratigraphie, ces mots ont un sens très précis. Ces différentes périodes géologiques de la Terre se découpent donc en plusieurs échelles suivant l'ampleur du changement et ont ère, période, époque, âge. Vincent Huot, qu'est-ce qui les différencie?
Alors oui, vous les avez cités dans le bon ordre, c'est pas si facile que ça. Alors c'est tout simplement l'importance des changements qui ont eu lieu entre ces différents ensembles de temps. Voilà, je vais prendre un terme très neutre, parce que il vous a pas échappé aussi qu'on a recyclé des termes du langage courant. En fait, les géologues du 19e siècle, ils ont choisi période, ère, et c'est dans le langage courant, ça a une autre signification, et ça introduit d'ailleurs des difficultés dans le discours des partisans de l'Anthropocène. Paul Crutzen en particulier a régulièrement mélangé époque et ère dans ses premières publications, ce qui ne rendait pas le discours particulièrement facile. Alors, on pourrait même introduire une autre difficulté, c'est que ce que vous avez cité, c'est les intervalles de temps qui correspondent au dépôt de ces couches, donc les durées de temps. Et en fait, on distingue aussi, avec la même hiérarchie, les ensembles de couches qui correspondent à ça. Donc, un étage correspond à un âge. Il y a la série, le système, l'ératème et l'éonotème. Voilà, donc ces ensembles-là permettent de décrire des ensembles de couches et les mettre en relation avec des intervalles de temps.
Pour y voir un peu plus clair, aujourd'hui, nous nous situons justement à quelle échelle géologique?
Alors tout dépend de ce qu'on veut dire. On peut citer l'ératème dans lequel on se trouve, qui est tout simplement le Cénozoïque. On est encore dans le Cénozoïque, ce qu'on appelle tertiaire auparavant. Si on regarde à une échelle un petit peu plus fine, on est aussi dans le Quaternaire. Le Quaternaire, c'est un truc un petit peu bizarre. Le dernier étage, je vais pas vous le citer parce que c'est un nom bizarre, mais en tout cas, la dernière époque, c'est l'Holocène. Hein, et on est dans l'Holocène actuellement. Mais l'Holocène, c'est la dernière époque de l'ératème Cénozoïque. Donc on est encore dans le Cénozoïque, on est encore dans l'Holocène, d'après la décision de la commission de stratigraphie.
Jean-Baptiste Frézos, en effet, voilà, l'Anthropocène ferait donc suite à l'Holocène, qui désigne cette période post-glaciaire de réchauffement qui court sur les 10 à 12 000 dernières années.
Alors l'Anthropocène, au départ, c'est une proposition, ce que vous disiez, c'est effectivement proposé pas du tout par un géologue, donc sans mal qu'il confonde ère époque, c'est pas du tout
Paul Crutzen.
Paul Crutzen, donc vous aviez dit, un chimiste, prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la couche d'ozone. Ce qui veut dire, c'est que l'humanité est devenue un facteur très important dans la dynamique terrestre, et je crois que ce qui était important dans cette notion, c'était sa dimension temporelle, c'est-à-dire ce que Crutzen disait, c'est qu'en fait on est en train d'altérer les dynamiques du système Terre pour des échelles de temps qui sont de l'ordre de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années, enfin, qui ont un aspect quasi supra-humain, quoi. Donc c'est ça qui était fascinant, en fait, dans cette notion. C'était cette dimension temporelle. Après, c'est sûr que quand Claude Sen fait son papier dans Nature, des Human Epoch, ou The Age of Human, je ne sais plus, il dit, voilà, un des marqueurs, ça pourrait être le brevet d'amélioration de la machine à vapeur de James Watt en 1784, sachant que c'est vrai qu'un brevet, ça laisse assez peu de traces dans les sédiments, vu que c'est un bout de papier. Mais, voilà, après, la chose a été prise en charge par des géologues qui ont quand même fait un dossier assez lourd, et je crois que on peut réagir différemment à cette décision de la commission de stratigraphie du Quaternaire, mais il faut pas oublier que l'Anthropocène, ça reposait sur des données qui sont quand même assez accablantes et extrêmement inquiétantes. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir, quoi. Il faudrait surtout pas, parce que c'est quand même un peu le risque, que on dit finalement cette histoire d'Anthropocène, c'était pas scientifique, c'était pas sérieux, ça soit un argument de relativisation de ce qui se passe sur la planète. Je veux dire, qu'on soit ou pas dans l'Anthropocène, ce qui est sûr, c'est que la quantité de CO2 dans l'atmosphère n'a jamais été aussi élevée depuis 3 millions d'années. Donc c'est bien quand même à l'échelle des temps géologiques qu'on est en train de faire quelque chose. Vous voyez, moi c'est ça qui me semble vraiment important dans cette notion d'Anthropocène. Le taux d'extinction des espèces, il faut remonter à des dizaines de millions d'années pour avoir des taux aussi rapides où on fait disparaître autant d'espèces comme ça, dans des laps de temps très très brefs. Voilà, je crois que ce dossier de l'Anthropocène, il était quand même très solide, quoi, malgré tout.
Crutzen, prix Nobel pour ses travaux sur la couche d'ozone en 1995. Donc certes, il n'est pas originaire de la géologie, mais on peut en effet rappeler, Vincent Biot, sur quoi il s'appuie pour proposer ce concept en 2000.
Oui, et à ce stade, moi, je voudrais dire, parce que c'est très important, il y a une confusion qui risque de s'aggraver, d'ailleurs, avec la décision de la Commission internationale de stratigraphie. On a l'impression que les géologues sont tous des anti-anthropocènes, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on est très nombreux, j'en fais partie, à être préoccupés, extrêmement préoccupés par les perturbations induites par les activités humaines sur le système terrestre. Donc ça, on le nie absolument pas. Simplement, la décision, c'est une décision qui concerne le fait que ce soit ou non une période géologique. Ouais, c'est pas la même chose. Et donc que ce soit un outil très, très utile, à la fois pour faire de la vulgarisation et puis aussi pour soutenir des recherches dans ce domaine en géographie, en histoire, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais force est de constater que c'est Crutzen lui-même qui a choisi d'ancrer ce terme dans le vocabulaire géologique. Il a construit Anthropocène en regardant les noms des séries géologiques. Et donc, c'est lui qui s'est mis dans cette situation-là. Et il s'y est mis un peu, à mon avis, par ignorance. Hein, c'est pas lui faire insulte que dire ça, parce que c'était pas son domaine. Parce que ça sonnait bien, effectivement, de parler d'une ère de l'homme, parce que c'était quand même ça qui était prévu au départ. Et puis après, au fur et à mesure, il s'est rendu compte que ça pouvait pas tenir en tant qu'ère de l'homme. Il en a fait une époque. Mais encore une fois, voilà, ce qui est important, c'est on est tous d'accord sur le constat. Et moi, je crois que le fait de dire du côté des géologues que c'est pas une durée de temps, mais que c'est plutôt un événement bref, ça enrichit le concept. Ça vient apporter quelque chose de nouveau, une dimension nouvelle, dont il faut qu'on discute ensemble, parce que cette dimension du temps long, elle est difficile à prendre en compte. Même nous, les géologues, on a beau faire les malins, on parle en centaines de millions d'années ou en millions d'années, c'est très très difficile à prendre en compte, et ça enrichit le concept.
En effet, il choisit Anthropocène dans la lignée des scènes, Pléistocène, Pliocène, Miocène, etc., qui s'enchaînent depuis le Cénozoïque. Vous évoquez l'outil utile quand même de ce concept, Jean-Baptiste Frézos. Le concept d'Anthropocène a pris une ampleur médiatique durant les années 2010-2009, justement.
Alors, avant de venir aux usages qui ont été faits d'Anthropocène, plus ou moins fructueux, je voulais simplement rappeler qu'en fait, il n'y avait pas simplement Paul Crutzen, quoi. C'est-à-dire, le dossier a été porté par des géologues. Paul Crutzen, c'est très vite, évidemment, c'était pas son domaine. Donc, en particulier, Jan Zalazievich, qui est un géologue tout à fait renommé, sérieux, et il n'était pas tout seul non plus. Donc, il y avait quand même, voilà, tout un travail de géologue qui a été fait. Une fois encore, je crois que cette décision qui a été prise, faut la remettre la remettre un peu à sa place. C'est-à-dire, je crois que c'est une vingtaine de personnes qui ont voté, 12 contre. Bon.
On peut revenir, parce qu'en effet, on évoque la Commission internationale de stratigraphie. Peut-être on est passé rapidement dessus, sur ce vote.
Non, mais il y a un très bon texte de Pierre de Jouvencourt dans la revue Terrestre là-dessus. Il ne faudrait pas que ça soit compris comme la science a dit que, ou même la géologie a dit que c'est un groupe bien spécifique de personnes qui sont dans une commission à un moment donné. Il se pourrait que ça change. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je pense qu'il faut aussi remettre ça un peu dans son contexte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment aussi se fabrique le consensus scientifique, parce qu'il y a des gens qui ont assisté au vote, ils disaient, toutes les règles n'ont pas été forcément parfaitement été respectées. Naomi Oreskes, qui est une historienne, mais qui fait partie du Anthropocene Working Group, donc qui a assisté au débat, disait aussi qu'elle trouvait ça regrettable, quoi, d'une certaine manière, même si elle, en tant qu'historienne, évidemment, elle n'a pas grand-chose à redire sur la décision, et d'ailleurs, elle ne vote pas. Mais je crois que dès le début, en fait, cette commission de stratigraphie, elle était assez opposée, en fait, quand même, à cette... Parce qu'il y avait une dimension politique, évidemment. Enfin, je veux dire, qui faisait peur aux géologues, en disant, Anthropocène, est-ce qu'on serait pas en train de mettre de la politique dans cette noble discipline, auguste discipline qu'est la stratigraphie? Mais d'une certaine manière, en refusant l'Anthropocène, c'est aussi un peu une position politique. Je crois que c'est, on peut pas dire, il y aurait une position qui serait politique, une position qui serait scientifique, parce que, quand les géologues, pour l'essentiel de leur histoire, ils ont, ça a consisté non pas à faire de la stratigraphie, mais à définir des cartes géologiques pour savoir où forer le pétrole, où extraire le charbon, où est-ce qu'il y a du plomb, du lithium ou je ne sais quoi. C'est ça quand même l'essentiel de ce que font les géologues au cours des 19e et 20e siècles. Là aussi, ils font de la politique d'une certaine manière. Donc voilà, moi j'aurais tendance à... Personnellement, je pense que l'Anthropocène vivra sa vie, et vous avez raison de dire en tant qu'événement, en tant que problème, anthropoblème, c'est aussi un terme très intéressant. Ça va exister et ça va continuer à vivre. Mais on peut aussi quand même questionner, je trouve, cette décision de la Commission.
L'Anthropocène géologique a-t-il un sens? On continue de poser cette question. Reste à l'écoute.
France Culture. La science CQFD, Natacha Triot.
En direct sur France Culture avec Jean-Baptiste Frézos et Vincent Huot, nous parlons de l'Anthropocène. On vient de voir que cette nouvelle période ferait donc suite à l'Holocène, que c'est un concept qui a été proposé pour penser l'humain à travers des temps géologiques et inventé au départ par Crutzen. On a vu aussi que dès le départ, le concept a du mal à se cadrer aux règles de la stratigraphie. Pour revenir sur ce fameux vote, du 5 mars qu'on évoquait à l'instant par la Commission internationale de stratigraphie, Vincent Huot, comment ça se passe, ça, justement, la création d'un consensus? Comment s'est déroulé ce vote?
Alors, on peut remonter déjà à l'origine, c'est-à-dire qu'au moment où la proposition de l'Anthropocène arrive, il y a d'abord un working group, un groupe de travail qui se constitue, qui est rattaché à la sous-commission du Quaternaire, qui va travailler sur le sujet et qui va faire une proposition. Donc, elle est chargée, cette commission, enfin ce sous-groupe de travail est chargé de trouver une coupe de référence, de définir quels sont les éléments qui permettent de dire qu'on est rentré dans l'Anthropocène. On a évoqué tout à l'heure le brevet de James Watt, mais bon, c'était effectivement insuffisant. Donc, on a cherché d'autres moyens de définir le début de l'Anthropocène. Et puis après, il y a un premier vote qui s'opère. Alors moi, j'étais pas dans la sous-commission. Je participe à une autre sous-commission. Je vois un peu comment ça se passe. Mais en l'occurrence, il y a un moment où je pense aussi que c'était un positionnement très politique dans la sous-commission où la personne qui dirigeait cette sous-commission qui était favorable à l'Anthropocène a bien vu qu'il n'arriverait pas à avoir une majorité et il voulait pas d'un vote. Et le reste de la commission a dit, on vote quand même, parce qu'on va pas rester éternellement sur ce sujet-là. Mais ce qu'il faut pas oublier, et ça c'est très important, c'est qu'après ce vote en sous-commission, il devait y avoir un vote en commission qui rassemblait tous les géologues, et pas seulement des spécialistes du Quaternaire, parce que dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, certes, il y a des géologues qui sont dans ce working group, mais ce sont des géologues qui sont spécialistes du Quaternaire, donc qui sont habitués à manipuler des durées de temps très très courtes. Et le Quaternaire, effectivement, on a des durées de temps qui sont un peu plus de 10 000 ans pour les dernières unités géologiques. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut noter. Et devant cette commission globale pour l'acceptation de l'Anthropocène, il n'y avait aucune chance. D'accord. Donc c'est déjà pas passé dans la sous-commission. Et je voudrais redire ici, j'ai anticipé ce qu'a dit Jean-Baptiste Pressos tout à l'heure, en disant qu'on n'était pas des dangereux extractivistes, en tout cas pas tous. et en l'occurrence, il y a une nouvelle génération de géologues qui est née. Et cette nouvelle génération, c'est pas celle qui a participé. On est
d'accord, les cartes géologiques, elles ont été faites pour faire de l'extraction de charbon, de pétrole. Il y a plein de choses qui ont été développées pour ça. Ça, on est entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, les géologues, c'est aussi ceux qui alimentent les modèles, les modèles climatiques, avec les données paléontologiques en particulier, pour savoir comment les climats ont évolué par le passé. Donc, on est en première ligne pour savoir que les choses qui sont passées dans le passé, qui étaient pourtant très graves dans certains cas, se sont pas passées à la vitesse qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Donc, on est très préoccupés. Il y a plein de géologues qui sont plus du tout des extractivistes et qui sont extrêmement préoccupés par ça, mais qui pour autant ne reconnaissent pas l'Anthropocène, la valeur d'époque géologique.
Jean-Baptiste Rézeau.
Non, mais évidemment que ce que je voulais dire, c'est que l'inquiétude des géologues de dire on risque de faire de la politique en faisant ça, c'est une vision quand même un peu d'une science qui serait en dehors de ces débats-là, etc. Alors que ce que vous venez de dire, c'est justement c'est l'inverse. En fait, évidemment que les géologues et les paléontologues quand ils étudient la variation des climats à l'époque du Quaternaire de manière de plus en plus minutieuse avec des outils hyper perfectionnés maintenant. J'avais vu des papiers incroyables sur on va aller chercher dans des restes au Sahara les graisses qui ont été produites par des plantes, des choses extraordinairement précises pour renseigner ce genre de basculement très rapide potentiel d'un climat à l'échelle du Sahara. Donc c'est sûr qu'évidemment la géologie maintenant est une discipline qui est de plein pied dans ces questions de changement du système Terre d'une certaine manière, mais peut-être que justement accepter l'Anthropocène soit une manière de signifier ça aussi, vous voyez ce que je veux dire, que cette question du changement du système Terre modifie aussi un peu la discipline géologique d'une certaine manière. Ça aurait pu aussi être compris comme ça.
À partir de quand les stratigraphes se sont-ils appropriés ce concept d'ailleurs ? C'est avec la naissance du fameux groupe AWG, Anthropocène Working Group ?
Alors ça, je saurais pas le dire. Bah, de toute façon, forcément, à partir du moment où il y a eu un groupe de travail, c'est rentré dans le champ de la stratigraphie. Mais les géologues en parlaient depuis longtemps. Enfin, moi, ça me préoccupait depuis longtemps, cette histoire-là. Et donc, c'est pas né à ce moment précis. Mais si on regarde dans l'histoire de la Terre, hein, je reviens là-dessus, on a des périodes de crise très rapides et qui sont sans doute moins rapides que ce qu'on est en train de vivre à l'échelle de nos vies humaines en termes de modification de nos environnements. Et en particulier, je vais prendre un exemple tout simple, celui de la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé. C'est une période extrêmement perturbée. Il y a un impact d'astéroïdes important. Il y a des éruptions volcaniques très importantes depuis plusieurs millions d'années en Inde à ce moment-là. Donc il y a des environnements qui sont très très perturbés. Et ce qui définit le moment de basculement, c'est probablement l'impact de Chicxulub, l'impact de ce météorite au nord du Yucatan, au Mexique. Et cet impact, on lui donne un nom. Impact en grec, ça se dit bléma, donc on parle d'astroblème, c'est l'impact d'un astéroïde qui provoque cette crise. Donc ce qu'on est en train de vivre, c'est ni plus ni moins que l'impact de l'action de l'humanité, donc ce que j'appelle moi un anthropoblème, mais la différence avec l'anthropocène, c'est que ça n'est pas une durée, c'est un événement bref, c'est une limite, c'est un trait qu'on pourrait tracer dans les temps géologiques. Et ça change complètement, parce que l'anthropocène, et d'ailleurs c'est évoqué dans les publications de Greenwald, de Crutzen et compagnie, à un moment, ils envisagent aussi qu'on ne puisse pas définir ce que sera l'anthropocène, ce qui est quand même un peu gênant. En géologie, on définit les périodes ou les époques ou les ères a posteriori, quand elles sont terminées. Et là, on veut définir quelque chose qui commence seulement. Donc, commençons par définir le trait de départ, et après, ce qui s'ouvre, si on veut vraiment l'appeler en scène, moi, je suggère de l'appeler un agnostocène, c'est-à-dire un nouvel inconnu, parce que ce qui s'ouvre, c'est un nouvel inconnu. Et je trouve que c'est plus responsabilisant que le terme d'anthropocène, qui, je l'ai vu interprété différemment, par des gens qui disaient, c'est bien, on arrive chez nous, vous aimez, c'est moi qui l'ai fait. L'anthropocène, fait par l'homme, pour l'homme, avec l'homme. Et là-dedans, il y a des gens qui se disent, moi je me projette bien là-dedans, parce qu'avec du technosolutionnisme, on va réussir à régler tous les problèmes. Alors je dis pas que tout le monde l'interprète comme ça, c'est pas l'intention de départ. Mais ça existe aussi, cette dimension-là. Et je pense que c'est parce qu'il y a une ambiguïté, et il y a aussi une ambiguïté sur l'échelle, parce que tout le monde est persuadé que c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on voit dans le passé, dont on peut sortir avec un peu de chance, avec un petit peu de technique. Et en réalité, on est vraiment dans l'inconnu, ça change tellement vite à des échelles inédites dans l'histoire de la Terre, qu'on est bien incapable de dire ce qui va se produire.
C'est ça le gros point d'interrogation des marqueurs de l'Anthropocène, c'est la durée dans le temps.
Oui.
Alors, quel est votre point de vue, Jean-Baptiste Rézeau, pour vous faire réagir sur... Voilà, Vincent Huot nous décrit qu'il défend cette idée avec d'autres collègues, le fait de penser l'Anthropocène non pas comme une nouvelle époque, mais comme un événement.
Alors, à vrai dire, avec Christophe Bonneuil, on avait publié en 2013 un livre qui s'appelle « L'événement anthropocène », sans comprendre tous les enjeux, à vrai dire, terminologiques qu'il y avait. Mais l'idée, c'était effectivement de bien signifier le caractère très brutal et très rapide, quoi, de ce qu'on a fait sur la planète, en fait. Donc, il y avait déjà cette idée. On imaginait plutôt, en gros, l'événement anthropocène, c'est ce qui fait basculer un système complexe comme la Terre dans un autre état. Et l'événement, c'est le développement économique qu'on a connu depuis 50 ou 150 ans, peu importe. Mais voilà, c'était un petit peu, effectivement, cette vision aussi des choses, au fond, qu'on partageait. Après, je suis d'accord aussi avec ce que vous venez de dire, en fait. C'est-à-dire, l'Anthropocène posait aussi énormément de problèmes. Donc, il y avait effectivement une reprise par ce qu'on appelle les écomodernistes de cette idée d'Anthropocène, en disant, en fait, pendant deux siècles, on a été dans un Anthropocène un peu bêta, et maintenant, guidé par les nouveaux savoirs du système Terre, avec une glorification de la nouveauté des savoirs les plus récents, qui pose d'ailleurs des problèmes en tant qu'historien des sciences, hein, je trouve, on va être capable de guider le système Terre, en fait, de piloter le système Terre, plutôt.
L'Anthropocène 2.0.
Voilà, ce genre de choses. Et en fait, c'est vrai que Paul Crutzen, quand est-ce qu'il commence à parler d'Anthropocène? Au moment où il commence aussi à parler de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est-à-dire, là, pour le coup, on parle de solutions assez radicales pour éviter les pires effets du changement climatique, aller injecter des aérosols dans la haute stratosphère pour envoyer une partie de l'énergie solaire dans l'espace.
La captation de carbone.
Alors, captation de carbone, ça, c'est encore une vision un peu moins démiurgique, mais voilà, on avait ce genre de discours qui émerge face au constat, mais c'est vrai qu'il faut aussi le déplorer, d'impuissance de la communauté internationale. On est après l'échec de Copenhague. En fait, quand vous dites c'est à partir de 2008-2009 qu'on parle beaucoup d'Anthropocène, c'est après l'échec de Copenhague. Et d'une certaine manière, c'était un peu face à ce constat d'échec. Je crois que la notion d'Anthropocène a eu beaucoup de succès pour essayer aussi de faire prendre conscience la population en général. C'est pour ça que c'est intéressant comme notion quand même, que ce qu'on est en train de faire, c'est fondamental dans l'histoire de la planète. Moi, je reviens quand même sur cette dimension temporelle, à mon avis, est extrêmement importante. C'était une sorte de... Ils appelaient au secours les géologues, d'une certaine manière, les scientifiques du système Terre. Et ils appelaient en plus une partie de la géologie que tout le monde a un peu en tête de ses souvenirs scolaires, des tableaux, des âges géologiques qu'on avait sur les murs des écoles. Une science très froide, très un peu austère, qui est un peu le symbole même de la science froide et désintéressée, quoi, d'aller chercher les époques il y a 500 millions d'années, et dire même cette science-là, elle reconnaît qu'en fait, là, on est en train de faire quelque chose de très important. Donc politiquement, symboliquement, ça avait quand même plein d'intérêt. Bon, une fois encore, on peut regretter ou pas, on va pas tourner autour, peu importe.
Si on admet que les géologues apportent leur pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire, hein, c'est un mauvais jeu de mots, en disant il faut prendre en compte ces aspects-là, mais pas les nommer anthropocène, mais les nommer peut-être autrement. Moi, je dis anthropoblème, mais c'est mon truc à moi. Peu importe que ça soit adapté ou pas, je m'en fiche. Mais qu'on le fasse rentrer dans sa véritable dimension.
On parle, là, on évoque des questions et des problématiques étymologiques. D'un point de vue méthodologique, avant de parler d'essayer de trouver les marqueurs de l'anthropocène, déjà peut-être un peu préciser quelles sont les méthodes en stratigraphie pour délimiter une période, une époque, un âge. Qu'est-ce qu'on va chercher comme marqueur? Des fossiles, des changements d'atmosphère?
Comme je disais tout à l'heure, le marqueur essentiel dans les temps anciens, c'est les fossiles. C'est-à-dire que les grandes aires géologiques ont été délimitées à partir de grands ensembles de faunes et de flores différentes. Et elles le sont forcément, puisque de part et d'autre, au début, à la fin du Mésozoïque, l'ancien secondaire, on a deux des plus grandes crises biologiques. Donc, ce qui existait avant a en grande partie disparu quand on entre dans le Mésozoïque, et ce qui existe après au Cénozoïque a en grande partie disparu à cause de l'événement que j'évoquais tout à l'heure à Chicxulub. Donc, il y a cette première façon de faire. Mais après, dans les échelles inférieures, on a également ce critère-là qui rentre en ligne de compte, parfois avec des crises qu'on a mésestimées, c'est-à-dire que la crise qui est à la base du Jurassique, c'est une crise qui est très importante, qu'on est en train de réestimer actuellement, parce que aussi les archives sont incomplètes, on n'a pas forcément une vision complète des choses. Et puis après, quand on va descendre vraiment dans les choses très, très fines, là on peut avoir d'autres critères qui étaient des critères biologiques au départ, mais maintenant on va s'appuyer aussi sur de la géochimie, sur des marqueurs isotopiques, des isotopes stables, des choses comme ça, qui permettent, à partir de certains éléments chimiques, de variation de leur teneur ou de leur proportion, d'établir des limites.
Pour délimiter justement ces périodes, donc on a les fossiles, les marqueurs géochimiques, mais il y a aussi d'autres critères qui sont pris en compte. Je pense notamment, par exemple, le fait que ces changements puissent être globaux, que ces changements puissent se retrouver.
Enfin, ça me permet de rebondir aussi sur une chose qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a un mythe qui est très ancien, qui date du début de la stratigraphie, en fait, qui est de chercher un marqueur absolument global. Et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est encore ce qu'on cherche aujourd'hui. Alors, on pourrait l'avoir pour l'anthropocène avec les essais nucléaires, même si les débris, enfin les restes des explosions nucléaires sont pas aussi répandus dans le sud que dans le nord. Mais bon, on pourrait avoir ça, on pourrait avoir un signal vraiment global. Mais quand on se réfère à des fossiles, on a l'impression, effectivement, comme le disait votre archive, qu'on va les trouver partout, en Amérique du Sud, comme en Australie, comme en Russie. En réalité, c'est un peu plus contrasté que ça, parce que regardez la nature actuelle, vous n'avez que très peu d'organismes qui sont présents sur toute la planète en même temps. Il y a des facteurs climatiques, environnementaux, etc. Donc en fait, il y a un mythe qui tend à chercher un signal global qui n'existe pas toujours. Donc en fait, il faut constituer un signal à partir de plusieurs informations. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Donc on n'utilise plus un seul signal, un seul proxy, comme on dit, mais on va utiliser les fossiles, on va utiliser des inversions paléomagnétiques, on va utiliser des signaux géochimiques, comme je le disais tout à l'heure, toute une palette de choses variées qui vont permettre de mieux définir le changement dans toutes ses dimensions.
Jean-Baptiste Rézos.
Moi, je ne suis pas du tout expert de ça. La chose intéressante pour notre débat, ce serait de voir est-ce que le dossier qu'avait proposé l'Anthropocene Working Group répondait à ces critères-là. Moi, ce qui me frappe, c'est l'Holocène. L'Holocène, c'est la fin de la dernière glaciation, donc c'est essentiellement un changement climatique. Ce changement climatique, il est un peu du même ordre de grandeur en écart de température que ce qu'on est en train d'enclencher, en fait. Et il s'est fait de manière plus progressive, si je me trompe pas, par rapport aux changements qu'on va vivre dans les décennies qui viennent. Donc, moi, je trouve que si on accepte l'Holocène, d'une certaine manière, ça aurait été assez logique d'accepter l'Anthropocène. Je trouve qu'il y avait un peu, on a demandé beaucoup quand même, j'ai l'impression, en termes de rigueur stratigraphique.
Encore une fois, l'Holocène, on l'a défini a posteriori. Pas a priori. Et ça fait une grosse différence.
Donc dans 11 000 ans, les géologues auront droit de...
le problème c'est qu'est-ce que ça sera devenu. Puis il y a une autre dimension qui est gênante dans l'Anthropocène, c'est que c'est un pari risqué quand même. Hein. C'est dire, on entre dans l'époque de l'homme, ça va durer, et Crutzen l'écrit d'ailleurs, hein, plusieurs milliers d'années de perturbations, mais est-ce qu'on est capable, en disant que ces perturbations sont extrêmement dangereuses, extrêmement amples, est-ce qu'on est capable de les maintenir à ce rythme-là pendant un millier d'années, ou 10 000 ans? Moi, je pense que non. Donc, encore une fois, on s'inscrit dans une forme de continuité, alors que c'est de rupture qu'il s'agit.
On vous dit qu'en fait, finalement, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si on perturbe les grands cycles sur des centaines, ou si ce sont des millions, ou sur des milliards d'années, c'est ça?
Oui, on les perturbe, les cycles. Mais de là à dire, et Crutzen s'inscrivait aussi dans la lignée de l'abbé Stoppani au 19e siècle, de Vernadsky, de Teilhard de Chardin, avec sa noosphère, en disant, l'esprit humain va être tellement puissant, l'homme est une force tellurique pour Stoppani, ou une force géologique pour Vernadsky. En réalité, enfin, soyons sérieux, l'homme ne peut pas empêcher un tremblement de terre ou un tsunami. Donc, l'homme n'est pas une force géologique, c'est pas parce qu'on touche, on perturbe les cycles géochimiques qu'on est une force géologique. On est un peu des apprentis sorciers là-dedans, on perturbe, mais on n'est pas sûr du résultat.
Ça c'est sûr que l'Anthropocène, ça s'inscrivait dans une vieille tradition culturelle de raconter l'histoire de la planète avec l'histoire de l'homme. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'était présenté comme une très grande nouveauté liée à l'Anthropocène, qui aurait été la découverte de cette rencontre du temps planétaire et du temps de l'histoire humaine. Mais en fait, pendant longtemps, enfin, on a écrit un livre là-dessus avec Fabien Locher, on a écrit l'histoire de la planète et l'histoire de l'homme ensemble, tout simplement parce que la planète, elle n'avait pas une durée si longue. Et par exemple, si vous prenez Buffon, qui est un des savants du XVIIIe siècle les plus célèbres, un naturaliste français, il raconte la septième époque de la Terre, c'est l'époque de l'homme. Hein. Enfin, je veux dire, pour lui, c'est évident que...
Il y a des passages savoureux, d'ailleurs, sur le réchauffement.
Tout à fait. Il est persuadé que l'humanité change profondément le climat de la planète, et que même elle est capable de fixer la température de la planète au point qui lui convient le mieux. Donc c'est vrai qu'il y a une vieille tradition d'un imaginaire de la maîtrise, alors que finalement l'Anthropocène, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire on perd complètement la maîtrise en vérité, et on est absolument incapable de maîtriser notre prétendue maîtrise de la planète.
Quoi. Et puis 4,5 milliards d'années d'âge pour notre planète et ces échelles géologiques qui mettent le vertige. Comment définir l'impact humain sur la planète à des échelles si grandes? Restez à l'écoute. Anthropocène, the current geological epoch.
10,000 years before now, global human population is 5 million.
Anthropocène de Orchestral Manoeuvre in the Dark en direct sur France Culture, car nous parlons de ce concept et de sa valeur scientifique. Ce concept existe-t-il d'un point de vue géologique ? On pose la question à nos deux invités du jour, Jean-Baptiste Frézoz, historien des sciences, des techniques et de l'environnement au CNRS, et Vincent Huot, maître de conférences en paléontologie et stratigraphie à l'Université de Lorraine. Selon ce concept, pour la première fois dans l'échelle des temps géologiques, l'évolution du système Terre, ses écosystèmes, ne dépendraient donc plus d'un événement naturel, mais de l'activité humaine. Pour dater et identifier une période géologique où Homo sapiens laisse son empreinte, il faut des marqueurs physiques spécifiques. On continue d'en parler avec vous, Céline Lozen. Bonjour.
Bonjour, Natacha.
Pour le reportage du jour, vous êtes allée à l'Institut de paléontologie humaine pour comprendre les méthodes et critères employés par la géologie à cette fin.
Oui, on l'a dit, pour déterminer une ère géologique, il faut des marqueurs d'effets géologiques qui puissent nous renseigner sur la chronologie de l'histoire de la Terre et faire consensus. Pierre Voinchet, géochronologue au MNHN, s'intéresse justement au calage chronologique issu des sédiments du Quaternaire, dont l'Holocène qui est la période actuelle. Mais considérant aussi les premiers peuplements humains en Eurasie, le problème est qu'Homo sapiens, à l'échelle des temps géologiques, ne laisse pour le moment aucune trace significative, un constat qui ne doit en aucun cas dévaluer ou nier l'effet délétère de l'humain sur la Terre.
Là, on est dans le laboratoire de préparation justement de tout ce qui est sédimentologie, là où on va séparer les échantillons de roches, de sable qu'on ramène du terrain afin d'en déterminer l'histoire, l'origine et puis un petit peu ce qu'ils peuvent nous raconter en termes d'environnement. Donc, on a tout ce qu'il nous faut pour...
Il y a un caractère un peu suranné sur cette paillasse, il y a plein de flacons.
Ah, il y a plein de flacons, plein
avec
de terreaux, de déchets, ça. Avec des minéraux différents, mais qui préviennent... Bah, à une extrémité, là-bas, on a les sacs de sable. Ça, c'est ce qui nous vient vraiment du terrain. Donc, on a été prélevé dans une stratigraphie. Et puis, après, avec des systèmes de tamisage, de séparation en liqueur dense ou de séparation magnétique, on voit dans les autres petits pots, là, tous les minéraux qu'on arrive à extraire et qui vont nous permettre de caractériser tel ou tel dépôt, savoir d'où il vient, comment il a évolué et ce qu'il peut caractériser en termes d'environnement. Est-ce qu'il a été déposé par un fleuve, par la mer, par le vent, etc. Bref, oui, donc oui, le Quaternaire et donc l'Anthropocène, est-ce que ça doit être déconnecté ou pas ou... Le souci, c'est que cette notion d'Anthropocène est quelque chose qui nous vient des sciences sociales. Ce qui est très difficile à mettre en relation avec des faits géologiques, des choses sur lesquelles on se base généralement pour établir une chronologie de l'histoire de la Terre. Mais initialement, le Pléistocène, c'était exactement la même histoire. On a inventé le Quaternaire, le Pléistocène, pour raconter l'histoire de l'homme. Après coup, pour le Quaternaire, on a trouvé des arguments pouvant en faire un vrai étage géologique avec l'histoire des cycles glaciaires-interglaciaires. Qui ne sont pas le propre de cette époque-là, mais qui, les précédents, étaient il y a plusieurs centaines de millions d'années, donc ça en faisait quelque chose de différent de l'époque du tertiaire qu'il y avait juste avant. Et donc, pour le Quaternaire, on a essayé de trouver, justement, la cyclicité climatique qui pouvait un petit peu morceler la fin de l'histoire de la Terre et en faire une époque particulière dans laquelle l'homme aurait évolué. Donc, les choses ont... se sont un peu complexifiés. Au début, on pensait qu'on avait une époque chaude, la nôtre, et puis une grande époque froide avant, les temps préhistoriques. Puis on s'est rendu compte que des périodes froides, il y en avait eu plusieurs. Donc on est arrivé à 5, 6, 7 glaciations. Donc là déjà, on a commencé à complexifier les choses. On a comme ça commencé à comprendre que le début de cette histoire pouvait être il y a plus d'un million d'années, et on est vite arrivé à un consensus aux alentours de 1,8 million d'années. Mais ça n'a pas duré très longtemps non plus, parce qu'on n'avait pas un enregistrement global d'un grand changement à 1,8 million d'années. Et c'est là-dessus qu'on va revenir après, pour justement comment on fixe les limites des aires géologiques. Il faut que ça soit global. Et pour trouver quelque chose de global, il a fallu reculer encore un petit peu plus dans le temps, jusqu'à 2,6 millions d'années, pour avoir vraiment le début de la cyclicité climatique. Et donc maintenant, le Quaternaire, c'est officiel, il commence il y a environ 2,6 millions d'années.
Pour en revenir à des marqueurs potentiels liés à ce qu'on appellerait l'anthropocène, qu'est-ce qu'on pourrait trouver au niveau géologique?
Alors là, c'est là où ça va devenir très compliqué. Parce que non seulement il faut que les marqueurs soient globaux, mais il faut aussi qu'ils soient durables. Ce que j'entends par là, ça veut dire que si on se projette dans un avenir très lointain, dans plus d'un, deux, trois millions d'années, il faut que les marqueurs sur lesquels on va se baser soient encore présents et soient encore visibles. Et là, c'est là où les choses commencent à faire débat, parce que tout ce sur quoi on se base pour définir cet anthropocène, malheureusement, ne sont pas vraiment durables. On peut parler des déchets que l'on sème derrière nous. On a parlé du coca-colien à un moment, parce que dans les récifs, dans les coraux au large des États-Unis, on avait des bouteilles de Coca-Cola prises dans les coraux. Et donc, voilà, c'était un bon marqueur. Malheureusement, même une bouteille en verre, au bout de quelques centaines de milliers d'années, elle va disparaître. Tout ce qui est métallique, c'est la même histoire. Le plastique, qui nous embête beaucoup et qu'on dit être polluant et qui a une durée de vie assez longue, dans quelques dizaines de milliers d'années, tous nos plastiques auront disparu. Le bitume, le béton, enfin tout ce que nous produisons n'a pas une durée de vie extrêmement longue. Alors on pourrait dire qu'on produit aussi beaucoup de déchets radioactifs. Mais pareil, la radioactivité, ça décroît. Dans quelques dizaines, centaines de millions d'années, tous nos déchets ne seront plus radioactifs. Donc ne seront plus discernables forcément de ce qui les entoure. Donc là, le problème, ça va être de trouver ce marqueur de notre activité si on veut définir un anthropocène. Alors, la seule chose, malheureusement, qui pourrait faire consensus pour marquer la fin d'une grande époque et le début d'une autre, c'est une extinction massive. Et en ce moment, on vit une période d'extinction massive. Le problème, là aussi, c'est que nous la voyons parce que nous la vivons. Donc on se rend compte que beaucoup d'espèces, beaucoup d'individus, beaucoup de genres disparaissent. Mais tous ces éléments, est-ce qu'ils auraient bien fossilisé? On ne sait pas. Donc est-ce que vraiment cette extinction va être discernable dans les sédiments dans quelques millions d'années? C'est très difficile à dire.
J'ai l'impression qu'il y a une confusion aussi sur ce débat. C'est pas parce que l'anthropocène n'existerait pas d'un point de vue géologique qu'elle n'est pas importante et qu'elle n'a pas de conséquences. Donc
tout à fait.
C'est aussi là que c'est confondant pour le message qu'on veut transmettre au grand public.
Tout à fait. Le problème, c'est de vouloir concilier deux choses, c'est-à-dire une notion sociologique, voilà, l'anthropocène, il existe, nous avons un effet sur notre planète, désastreux, mais et de vouloir le combiner avec du géologique, où on regarde les choses à une toute autre échelle. Et là, malheureusement, on ne peut pas arriver à concorder les deux. Parce que, d'un point de vue géologique, notre action, elle est quasi négligeable. Si on regarde sur le temps long, si on regarde sur toute l'histoire de la Terre, il s'est passé des choses beaucoup plus bouleversantes qui ont eu un impact et qui se sont enregistrées. Notre activité, pour le moment, n'est pas suffisante, même si elle est quand même très importante.
Puis le problème, c'est prendre ce propos-là pour s'en servir, pour ne pas agir et ne pas entreprendre des actions.
De dire, les géologues ont dit que l'anthropocène n'existait pas, donc ça n'existe pas, on continue comme... Non, ça serait complètement faux. Et il ne faut absolument pas réfléchir comme ça.
Merci Céline Lozen pour votre reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Vincent Huot?
Oui, je suis assez d'accord sur la fugacité de la plupart des marqueurs qui sont évoqués, en particulier le plastique, parce que c'est très marquant, le plastique, il y en a partout, il y a des micropolluants, des macropolluants, il y en a vraiment à tous les niveaux, dans les océans. En réalité, c'est un vrai problème, parce que dans quelques millions d'années, même sans parler de centaines de millions d'années, c'est peut-être beaucoup, mais ce plastique va se dégrader. Et il va retourner à l'état de matière organique. On aura des lits de matière organique, et encore, c'est même pas sûr, ça va peut-être être dispersé. Et donc, on a un vrai problème là pour estimer. Je reprends l'image de l'impact de Chicxulub. On a une petite couche qui est riche en iridium, voilà, parce que l'iridium a été apporté par l'impact de la météorite. Mais en dehors de ça, malgré la gravité de la crise, on retrouve pas des ossements partout, quoi. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un cimetière sur des milliers de kilomètres carrés. Ce n'est pas le cas. Donc c'est un événement qui a été extrêmement brutal, extrêmement violent, puis qui a sans doute duré aussi un temps assez long. Mais on n'en retrouve quasiment rien. Des fois, c'est difficile de trouver la limite. Donc on est encore sur cette question d'échelle de temps. Et ce qu'il faut faire comprendre, c'est que, je le redis encore une fois, ça apporte quelque chose, cette dimension des temps profonds, des temps longs géologiques, parce que si on comprend que ce qu'on a mis des centaines de millions d'années à former, les gisements de charbon, de pétrole, etc., et qu'on a déstocké brutalement en quelques décennies, ça, c'est une perturbation majeure des grands cycles. Et si on ne met pas en perspective ces deux échelles de temps, on ne comprend pas la gravité de la situation. Donc je le redis, moi je pense que vraiment, la décision géologique apporte quelque chose à l'Anthropocène.
Jean-Baptiste Frézeau, je voyais que ce reportage vous faisait réagir, vous aussi.
Non, mais c'est toujours le même problème. En fait, l'Anthropocène, ça vient non pas des sciences sociales, là pour le coup, c'est vraiment pas le cas. Ça vient en fait des sciences du système Terre, des sciences de l'atmosphère, ça vient plutôt de cette discipline-là. Et c'est toujours le même problème. En gros, on a une opposition, enfin pas une opposition, mais une non-congruence entre des types de preuves qu'on utilise dans les sciences du système Terre, les sciences de l'atmosphère, et puis les preuves qu'ont envie d'avoir les géologues, à savoir des sédiments, de la roche, des centaines de millions d'années. C'est sûr que c'est pas les mêmes cultures scientifiques d'une certaine manière. Mais une fois encore, je pense que cette culture de la géologie, elle aurait pu évoluer. Bon, on va pas reprendre ce débat-là, mais voilà, c'est juste dire que, bon, ça, vraiment, ça vient pas du tout des sciences sociales. Et les sciences sociales, pourquoi ça a été intéressant pour les sciences sociales? Parce que, justement, il y avait une dimension temporelle, donc saine, une époque. Forcément, un historien, ça l'interpelle. Il y a un aspect quand ça commence. Hein, et puis, c'est quoi les causes? Donc, ça s'est renvoyé à plein de questions historiques intéressantes, en fait. Et par rapport à crise environnementale ou changement global, qui est un peu les termes qu'on employait, en fait, pour dire un peu la même chose, hein, faut pas non plus pinailler, c'est beaucoup plus intéressant. Anthropocène, pour ces raisons-là, de dimension temporelle, chronologique, etc. Donc c'est vrai que pour eux, les sciences sociales sont venues dans un second temps, en fait. Hein, et ce qui était aussi fascinant dans les premiers papiers sur l'Anthropocène, c'est que quand les géologues ou les scientifiques du système Terre ont essayé de muscler cette notion-là, ils ont compilé plein de données statistiques globales sur la consommation de tout un tas de choses, sur la masse d'eau qui est retenue dans les barrages, l'altération massive et globale du système hydraulique, enfin des choses assez énormes, le fait que le cycle du phosphore humain est supérieur au cycle du phosphore du cycle biogéochimique du phosphore naturel, pareil pour l'azote, hein, lié aux engrais et donc à l'agriculture. Et donc, on avait plein de données quantitatives globales sur des choses qui ne font absolument que croître et de manière plus en plus rapide après les années 1950. Et c'est vrai qu'en tant qu'historien, on avait envie d'expliquer ces courbes. Parce que ce qui est la cause de l'Anthropocène, ce ne sont pas ces courbes, évidemment. C'est tous les déterminants et toutes les dynamiques historiques, économiques, qui produisent comme ces courbes-là. Voilà, donc c'est vraiment, les sciences sociales arrivent dans un deuxième temps. Et en plus, elles ont été assez critiques de la notion d'anthropocène, en vérité, parce que ça n'a pas encore été dit, mais autant l'anthropocène avait une force temporelle, enfin, sa force était liée à cette invocation des temps très longs, et en un mot très concis, en fait, il disait quelque chose d'assez profond, à savoir la perturbation du système Terre sur des échelles de temps très grandes, autant anthropocène posait quand même tout un tas de problèmes à cause de cette racine anthropos. Parce que ça renvoyait à l'espèce humaine...
l'inclusion de l'humanité.
Exactement, qui n'existe pas, en fait. Qui n'existe pas, ça n'existe pas, l'humanité. Enfin bon, sur les questions environnementales, il ne faut pas dire l'humain, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on a des impacts qui sont radicalement différents en fonction de là où on habite, de notre niveau de vie, etc. Donc, c'est vrai qu'anthropocène, ça renvoyait aussi à une vision... néo-malthusienne, hein, de ce mouvement scientifique très important aux États-Unis dans les années 50-60, où on est très fortement préoccupé par la croissance démographique, et pas mal de questions environnementales émergent en fait de l'angoisse de la croissance démographique des pays pauvres. Bon. Et en fait, l'Anthropocène, c'est un peu une queue de comète de ce cadrage-là, des questions environnementales très importantes aux États-Unis dans les années 1950-60. Donc les sciences sociales, elles ont plutôt eu tendance à critiquer l'Anthropocène, à dire, ben non, on devrait parler de plein d'autres choses. Alors, vu qu'Anthropocène s'est pas passé, les alternatives avaient peu de chances de passer, mais il y avait Capitalocène, évidemment, parce que c'est sûr que le capitalisme a quand même à voir avec la dérégulation du système Terre après les années 50. On a parlé de Thanatocène pour insister sur le rôle des guerres. Enfin voilà, on a multiplié les scènes, ce qui a un peu fait peur, je crois, à certains géologues qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que
ça?
Occidentalocène, Anglocène, moi j'aimais bien parce qu'en fait, pendant très longtemps, le charbon était quelque chose de très, très anglo-américain, en fait, charbon et pétrole. Voilà, donc c'est plutôt un regard critique, hein, que les sciences sociales ont porté sur la notion d'anthropocène.
Mais ça permet, justement, hein, ces noms alternatifs, ça permet de rappeler, hein, que les émissions de CO2 ne sont pas réparties uniformément, que certains pays consomment bien, bien, bien plus, et depuis bien, bien plus longtemps, en fait. C'est aussi ça.
Exactement. Bah, passion pour Anglocène, moi, c'est parce que j'avais un peu regardé les statistiques d'émissions cumulées. En fait, il fallait attendre les années 1970 pour que les émissions cumulées de l'ensemble des autres pays dépasse simplement celle de l'Angleterre et des États-Unis, quoi. Donc, jusque dans les années 60, en fait, anglocène, c'est plus rigoureux qu'anthropocène. Pour bien, enfin, il y a un mode de développement très spécifique de l'Angleterre, en fait, déjà au 19e siècle. Puis après, la puissance économique des États-Unis font qu'ils y mettent beaucoup plus que les autres pays, quoi.
Et tout ça est très vrai, mais j'ai toujours envie de poser une question. Qu'est-ce que ça enlève à l'anthropocène de ne pas être une division des temps géologiques?
Non.
Pas grand-chose, en fait, parce que tout ce que vous venez de décrire est toujours vrai et peut toujours être utilisé pour définir un certain nombre de choses qui correspondent à l'anthropocène, mais que ça ne soit pas une époque géologique, c'est vraiment pas très grave, à mon avis. Et surtout que c'est quand même une idée qui est assez occidentalo-centrée, hein, si on peut le dire comme ça. Et puis, ça me paraît être aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, un énième avatar d'anthropocentrisme, moi, qui me déplaît un peu, quoi.
Alors, ça, on a déjà un petit peu parlé sur l'aspect du bon anthropocène et de la maîtrise. Oui. Juste une remarque, la notion d'holocène, qui était acceptée par les géologues, était déjà très anthropocentrique.
Oui, comme celle de Quaternaire aussi.
Et en gros, celui qui invente la notion d'holocène, c'est un monsieur qui s'appelle Paul Gervais. C'est un Français qui est professeur de paléontologie et de zoologie à l'Université de Montpellier. Et qui dit, c'est en gros l'époque de la faune actuelle, donc des humains avec leurs animaux domestiques, quoi. Donc c'est en 1850. Et ça a été ensuite accepté fin 19e siècle, quand on a commencé à formaliser les différentes époques.
Mais parce qu'il s'inscrivait complètement dans la tradition. Tous les autres noms qu'on a évoqués tout à l'heure, paléocène et éocène, ils définissent en fait la ressemblance croissante des faunes depuis le début du Cénozoïque jusqu'à aujourd'hui, avec les faunes actuelles. Donc, au début, ça ressemble pas beaucoup. Oligo, ça ressemble peu. Et holos, ça ressemble en entier, puisque c'est de la totalité. Donc, il y avait quand même une logique. Alors qu'Anthropocène rompt avec cette logique étymologique en faisant un homme nouveau qui ne signifie pas grand-chose. Si je reprends la citation qu'on attribue à Albert Camus, mais qui est de Brice Parrain, c'est « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Je crois qu'on est en plein là-dedans.
Pour pas jeter quand même le bébé avec l'eau du bain, on voit quand même que... Alors oui, l'Anthropocène, c'est scientifiquement bancal, mais ça a quand même permis la jonction entre des domaines qui ne dialoguent pas du tout ensemble, normalement. Vincent Huot.
Par exemple, cette émission.
Ce que vous êtes en train de faire, messieurs.
J'en suis ravi. J'en suis absolument ravi. Mais je pense qu'il faut que ce dialogue se poursuive. C'est pas parce qu'il y a une décision qui a été prise là qui montre le désaccord de la communauté géologique avec l'emploi de ce terme-là qu'il faut cesser de l'employer. Moi, je ne dis pas qu'il faut cesser d'employer Anthropocène. Je suis dans un groupe qui a travaillé pour sensibiliser les jeunes étudiants en début de licence aux questions environnementales et qui s'appelle S3C, Anthropocène. Voilà, socle commun de connaissances sur l'Anthropocène. Donc, vous voyez, je ne rejette pas ce terme, mais il faut simplement le redéfinir et un peu le recadrer, quoi.
Puisque quand même, ce qu'on est en effet en train de faire là tout de suite, c'est qu'on voit des chercheurs en sciences humaines et sociales et des chercheurs en géologie et stratigraphie qui échangent, et ça on peut pas... on peut voir que c'est quand même l'un des apports très concrets de ce concept, Jean-Baptiste Fressaud.
Non, grâce à Anthropocène, effectivement, les historiens, les économistes ont dialogué avec des gens avec qui on n'aurait jamais parlé sinon, donc ça c'est quand même évidemment très, très enrichissant. Pour les sciences sociales, pour l'histoire en tout cas, je parlais que de mon domaine, et même quasiment de... Moi, ce qui m'a percuté quand j'ai entendu parler de ça, c'était les dimensions de quantification matérielle, en fait. C'est-à-dire, ça forçait l'historien à regarder beaucoup plus précisément les quantités de matière et avoir un regard beaucoup plus matérialiste sur des phénomènes que sinon on traite sous le fordisme, avec un isme comme ça, mais sans regarder concrètement la matière. Et moi, pour mon travail historique ultérieur, ça a été important pour ça, en fait. Ça m'a fait lire des papiers que j'aurais pas lus sinon sur les études métaboliques, quoi. C'est-à-dire, on regarde ce qui rentre, ce qui sort dans un pays, à l'échelle planétaire, à l'échelle d'une ville, etc. Des visions très, très matérialistes, rigoureuses et quantitatives. Et ça nous permet aussi de raconter des nouvelles histoires. Donc, je pense que ça a été très fructueux pour l'histoire, cette affaire d'Anthropocène, sincèrement. C'est-à-dire, j'ai fait paraître un livre sur l'histoire de l'énergie qui, d'une certaine manière, est né du fait que j'avais lu plein de papiers qui étaient liés plus ou moins à mon intérêt pour l'Anthropocène. Ce genre de phénomène scientifique, c'est toujours intéressant quand même d'être un peu décalé par rapport à nos routines, quoi. Enfin, voilà.
On est arrivé à la fin de cette discussion. Comme chaque jour, on retrouve la chronique Avec Science par Alexandra Delbo dans quelques secondes, qui nous parle d'un tout autre sujet. Mais merci Vincent Huot, merci Jean-Baptiste Fressaud.
Merci.
C'est la chronique Avec Science.
Comment lutter contre la sarcopénie? En vieillissant, la masse musculaire s'amoindrit et la force aussi. Ça, c'est inéluctable. Mais quand la perte est excessive et surtout que la fonction musculaire n'est plus assurée, on parle de sarcopénie. C'est une maladie très commune. Environ 15% des plus de 60 ans sont touchés. Et pour l'instant, il n'y a aucun traitement disponible, notamment parce que les causes et conséquences sont multiples. Dans la sarcopénie, la qualité de la communication entre nerfs et muscles est moins bonne. Le métabolisme du muscle est altéré, l'inflammation est augmentée et la régénération, qui se fait normalement naturellement, est moins efficace. Mais depuis quelques années, une protéine attire les scientifiques pour ses potentielles capacités à inverser le cours du vieillissement musculaire. Elle s'appelle GDF5. France Pietri-Rouxel est directrice de recherche CNRS au Centre de recherche en myologie et co-dernière autrice de cette étude parue dans Brain.
Cette protéine, son rôle, il a été vraiment découvert par une équipe franco-italienne qui avait montré que cette protéine était essentielle pour maintenir la masse musculaire au cours d'une dénervation. C'est-à-dire que quand le muscle justement était dénervé, c'est-à-dire que ce motoneurone n'était plus efficace, on voyait une atrophie musculaire, donc une diminution de la masse musculaire. Et pour essayer de compenser cette diminution de masse musculaire, le GDF5 était montré comme un acteur majeur dans cette condition-là. Alors après, nous, ce qu'on a utilisé comme information, c'est que c'était un acteur majeur de la compensation de la perte de masse musculaire, et on a regardé quelles étaient ses fonctions au cours du vieillissement. Puisqu'on avait une perte de masse musculaire inéductible, on s'est dit que peut-être ce mécanisme qui vient compenser dans le muscle jeune une atrophie musculaire, bah peut-être qu'il est plus aussi efficace dans un muscle vieillissant, et que c'est pour ça qu'on a cette diminution de masse et de qualité musculaire.
C'est donc une des origines potentielles de la sarcopénie qui est explorée dans cette étude. L'objectif est de voir si l'ajout de cette protéine GDF5 permet d'inverser la perte musculaire. Pour cela, il a d'abord fallu mesurer l'expression de cette protéine dans des biopsies de muscles jeunes et vieux. Et effectivement, il y a bien un défaut d'expression de la protéine dans les muscles avec le vieillissement. Deuxième étape, traiter de vieilles souris. Dans cette étude, elles ont un petit peu moins de 2 ans, 20 mois exactement, toutes présentaient une altération de la masse et de la fonction musculaire avec l'âge. Résultat, un traitement à base de cette protéine, GDF5, en continu pendant 4 mois, permet de compenser la perte musculaire de l'ordre de 16% environ. Mais ce n'est pas tout. GDF5 renverse aussi l'expression de plein d'autres gènes qui révèlent un rajeunissement musculaire.
La sarcopénie, c'est vraiment multifactoriel. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de changements moléculaires qui vont apparaître au niveau du muscle au cours du vieillissement. Et donc, ce qu'on a voulu avoir, c'est une cartographie en définitive de ces changements moléculaires. Et pour ça, on a extrait, en fait, les ARN messagers, en fait, l'expression des gènes du muscle chez une souris jeune, chez une souris âgée et chez une souris âgée traitée avec du GDF5. Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que entre le profil d'expression des gènes dans les souris jeunes et dans les souris âgées, on avait vraiment une modification d'une quantité très importante d'expression de gènes, et notamment des gènes qui touchent l'inflammation, qui touchent le métabolisme des mitochondries, qui touchent la masse musculaire, etc., etc. Et du coup, quand on regardait, on comparait en fait l'expression de ces gènes dans le muscle âgé avec celui des muscles âgés traités avec le GDF5, on avait un rajeunissement de tout ce profil d'expression des gènes, et on retrouvait le profil qu'on observait dans les muscles des souris jeunes.
GDF5 a un effet bénéfique pour le maintien de la masse musculaire et son métabolisme, mais aussi sur la jonction neuromusculaire, donc ce lien entre neurones et muscles, ce qui fait que non seulement la masse musculaire est maintenue, mais la contraction et donc la force musculaire est préservée. En ligne de mire, il y a évidemment un candidat médicament pour la sarcopénie, ainsi que pour les maladies rares du muscle, comme la maladie de Duchenne. Reste qu'il s'agit pour l'instant d'un stade préclinique. La prochaine étape sera de trouver une bonne forme d'administration de cette protéine, en sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse, et puis de trouver évidemment la bonne dose avant de pouvoir réaliser une demande d'essai clinique chez l'humain.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute.
Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Céline Lozen, Garance Prima Agnolo, Bruno Sansini. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Vous pouvez nous écouter partout en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.